Ménage à trois sur RTR en compagnie de Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique. Mes camarades sont autour de la table dans les studios rue Ténois. Catherine, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour
Manu.
Manu,
c'est moi.
Manu, ça va?
Manu va très bien, oui.
Vous allez tous bien parce que... Pourquoi vous allez bien? Parce que c'est... franchement, en ce moment, il n'y a pas de quoi aller bien.
C'est une formalité.
Parce que c'est le printemps.
Ah d'accord.
Voilà, c'est le printemps, exact.
On salue Nico qui va assurer la réalisation technique de cette émission magnifique que le monde entier nous envie, et en particulier les radios commerciales, puisque nous rappelons qu'il s'agit ici d'une réunion de toutes les radios non commerciales du département de l'Aveyron. Ménage à trois, un magazine qui se veut offensif, un magazine qui décrypte l'actualité aveyronnaise ou internationale, parce que finalement tout ce qui est international peut être aveyronnais et lycée de Versailles. Je pense que vous ne me contredirez pas.
Maître.
On peut tout ramener au local, hein, de toute façon.
Ah oui, il y a des trucs à déménager.
On disait que l'international c'était le local moins les murs.
D'accord.
C'est une petite définition.
C'est toujours un déménagement.
Voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Nous allons évoquer trois sujets, tous différents, qui vont être donc traités par chacune des radios. C'est un petit peu le principe de cette émission. Je rappelle toujours les règles du jeu pour les nouveaux auditeurs qui prendraient pour la première fois ce magazine en cours. Alors, avec Radio Larzac, peut-être Catherine, on va commencer à évoquer.
Ouais.
D'accord, très bien. Alors,
évoquer un procès.
Ah, un procès.
Alors, un procès qui s'est déroulé à Millau, mardi 20 mars. Et bon, jusque-là, voilà, un procès. Il n'y en a plus beaucoup à Millau, hein, je rappelle quand même que...
De procès
le... Mais il me semblait que ça avait été fermé.
Oui, il n'y a plus de tribunal.
Voilà, il n'y a plus de tribunal, il n'y a plus que des petits trucs, des amendes, des choses comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle au niveau juridique. Mmh. Mais bon, il n'y a presque plus rien, hein, ce qui est, c'est un peu dommage parce qu'on se rappelle que les grosses manifs à Millau...
voilà, il y avait de l'animation.
ça mettait de l'ambiance, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé ce tribunal. Voilà. Hein. C'était pour pas qu'on ramène les brebis. Donc il y a eu un procès mardi, on n'a pas ramené de brebis, puisque c'était le procès d'un cafetier de Millau. Donc un cafetier qui devait payer une amende en fait, une amende qu'il a eue en août 2011 pour tapage nocturne, qu'il n'a pas payé, et donc il passait en procès mardi. Donc jusque-là, vous allez me dire, bon bah c'est normal, on est un citoyen honnête, on paye ses amendes.
Combien ?
Alors, au départ, elle était de 90 euros, cette amende. Et maintenant qu'il n'a pas payé, elle est à 200 euros.
D'accord. Et donc, ce cafetier se retrouve devant le tribunal.
Voilà.
Pour non-paiement, finalement,
pour non-paiement
d'amende.
Cette amende. Donc ça, c'est les faits. Hein. On peut les exploiter de façon très différente. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéressait de parler de ça. Donc, ce cafetier, en l'occurrence, il s'agit du cafetier de La Loco à Millau. Donc, c'est un bar qui fait des concerts, qui organise des concerts de temps en temps, pas tout le temps, une fois par semaine, souvent le vendredi soir. Bon, il ne fait pas que ça, il fait aussi des petites soirées. Le jeudi soir, souvent des projections, cinéma. Et le dimanche après-midi, parfois, ou d'autres jours d'ailleurs, des après-midi jeux coopératifs, des choses comme ça. Enfin, il anime un petit peu la ville, un petit peu le quartier. C'est dans la rue Gambetta Millau, donc c'est une rue qui n'est pas en plein centre-ville, en fait. C'est vrai que c'est un quartier un petit peu retiré où les gens, apparemment, aiment bien être un peu tranquilles.
Un peu résidentiel.
Presque. Bon, c'est entre le centre-ville et les campings de Millau, donc c'est un... voilà.
La plage.
Voilà,
entre les centres-villes
et la plage. Et ce cafetier s'appelle Iñaki Aranceta. Certains le connaissent même peut-être jusqu'à Rodez ou jusqu'à Sainte-Afrique, parce que c'est vrai qu'il est connu aussi, on en vient au fait, bon, c'est quand même quelqu'un qui s'est présenté plusieurs fois à des élections locales, pour, il me semble que la dernière fois c'était au cantonal ou au municipal, je ne sais plus, enfin bon, pour le compte du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Donc il est quand même un petit peu connu localement pour ses idées politiques, il est assez militant dans les collectifs de sans-papiers. Bon, si je dis ça, c'est pas moi qui pense que c'est important, que ça peut poser problème, c'est que visiblement il a aussi beaucoup de problèmes par rapport à ça. on peut que le supposer, hein, puisque c'est pas ça qui
a été jugé,
évidemment, dans le tribunal. Mais il se trouve, et peut-être ça vous arrive aussi dans vos villes respectives, que depuis qu'il a rouvert la loco, parce que la loco, il l'a depuis très très longtemps, et pendant 13 ans, il a tenu la loco, c'était très connu, il y avait plein de concerts, etc. Il y a eu 1200 concerts en tout, il avait reçu d'amende qu'une ou deux fois, et depuis qu'il a réouvert, parce qu'il l'a mis en gérance un petit temps, il a réouvert depuis l'année dernière, il n'arrête pas d'être convoqué au commissariat, c'est-à-dire 28 convocations au commissariat en l'espace de 2 mois.
Mais on sait pourquoi.
À chaque fois, c'est pour le bruit.
Oui, mais on sait pourquoi, ça, là, c'est de plus en plus fréquent.
Voilà, c'est de plus en plus fréquent. Bon, moi je sais qu'on l'avait déjà fait venir à la caravane de Radio Larzac sur le marché en décembre dernier parce qu'il était à bout, franchement, hein, il était à bout, il était à deux doigts de fermer parce que bon, à chaque fois qu'il faisait un concert, il faisait attention. Moi j'y suis déjà allé, ça fait pas tellement de bruit et puis c'est vrai qu'il essaye d'arrêter tout, etc. Et à chaque fois, il a ça. S'il n'avait que ça, ça irait. Mais il se trouve qu'il a d'autres problèmes. Il a des pneus crevés, enfin il y a tout un climat de voisinage autour de lui qui est assez difficile à vivre. Et du coup, il y a une association qui s'appelle l'association culturelle, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, l'association culturelle des amis de la loco, pour le défendre. C'est-à-dire, en gros, beaucoup de gens qui fréquentent la loco et qui trouvent que bon, là, ça commence à bien faire, qui ont vu qu'il était à bout et qu'il fallait qu'il ait du soutien. Donc, il s'est créé à l'occasion de ce procès pour faire un petit peu de bruit et puis dénoncer un petit peu cette histoire qui fait que bon,
ce climat de harcèlement
qui fait que dans nos petites villes, les gens qui font des choses un petit peu toute l'année et pas que pour les touristes, ils se font sans arrêt emmerder, c'est un petit peu ça. Donc je vous propose déjà d'écouter un premier son. C'était lors de la conférence de presse de l'association culturelle des amis de la loco. C'est un son qui a été préparé par Colline de Radio Larzac.
Mardi 6 mars a eu lieu une conférence de presse donnée par les membres de l'association culturelle Les Amis de la Locomotive, créée en soutien pour le bar du même nom, dont le propriétaire Iñaki Arantzeta passera devant le tribunal le 20 mars au motif d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Gérant du bar depuis 1989, M. Arantzeta a organisé plus de 1200 concerts en 13 ans sans générer d'aussi forte mobilisation de la part du voisinage ou encore des forces de l'ordre. Ce n'est que récemment, après avoir repris le bar qu'il avait mis en gérance durant 10 années, qu'il a été l'objet de nombreuses plaintes pour nuisance sonore ou de contrôle de police. Prenant le train en marche, j'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs wagons de la locomotive afin d'en interroger différents usagers réguliers. Monsieur Philippe Gilleron, ancien policier et familier de la locomotive, a ainsi accepté de me dire quelques mots.
J'aurais aimé savoir ce que représentait Iñaki pour vous et le bar de la loco.
Bah écoutez, Iñaki, c'est un être humain que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu pas mal de discussions. Nous n'étions pas d'ailleurs tout à fait d'accord sur pas mal de points, mais qui au fil du temps, je pense, est devenu une personne que j'apprécie pas mal. Et je peux dire aujourd'hui que je considère comme un ami. Je veux vous dire aussi que je ne fais pas partie du NPA, que pour moi, la loco, c'est un lieu qui est super génial. Ma femme, qui est championne de vélo, qui s'appelle Karine Seissé, et mon petit garçon, qui a 6 ans et demi, eh bien, ont grand plaisir à venir voir des soirées musicales qui se passent chez Iñaki. Et je dois dire pourtant que ma compagne, elle non plus, le NPA, c'est pas sa tasse de thé, mais elle a de très bonnes relations avec Iñaki et avec pas mal de monde qui sont là régulièrement. Cette loco, bah écoutez, c'est un endroit où on peut venir en toute sécurité, en famille. On peut jouer, on peut s'amuser, on peut passer de très bons moments. C'est un lieu de vie. Ce n'est pas ce que les gens disent, à tort. C'est un endroit qui fait que Mio a un cachet particulier. Et chaque fois que nous pouvons, que je peux passer un moment ici, je viens.
Madame Juan, présente lors de la soirée du 31 août, durant laquelle M. Arantzeta a été verbalisé pour nuisance sonore, a apporté son témoignage.
J'aurais aimé savoir si vous estimez que l'assignation de M. Arantzeta vous paraît justifiée.
Absolument pas. Enfin, si j'ai bien compris, hein, c'est par rapport à des décibels qui seraient dépassés. Et sur cette plainte, j'étais présente ce soir-là et c'est absolument pas justifié.
Vous étiez là le 31 août, du coup.
J'étais là le 31 août, ouais. Et 105 en terrasse après 23h, ils n'avaient vraiment pas lieu.
La musique n'était pas forte, du coup.
Absolument pas. La musique était finie à cette heure-là.
Monsieur Marcoux, voisin de la locomotive, et Gaël Briand, membre du convoi, sont venus tour à tour nous parler de l'association des riverains du boulevard Gambetta. Pensez-vous de l'association des riverains du boulevard Gambetta qui a pour objet la défense des intérêts des riverains contre toutes les formes d'incivilité et transgression à la loi ?
Alors, en fait, c'est un petit peu compliqué, puisque moi, je suis voisin aussi. J'aime bien aussi la tranquillité, hein, mais pas cette tranquillité-là, quoi, en fait. Pour moi, la tranquillité, c'est pouvoir vivre tranquillement et faire ce que j'ai envie de faire dans le cadre de la loi, bien sûr. Hein. Mais cette association-là, en fait, pour moi, c'est une association de dénonciation, de délation, qui a pour but de faire fermer le café de la locomotive. Ce n'est pas une association positive pour les riverains de l'avenue Gambetta. C'est plutôt une association de dénonciation. Je redis ça puisque c'est vraiment ce qui me choque. J'ai lu les statuts et ça me fait penser un petit peu aux associations d'autodéfense américaines.
En tant que voisin, vous n'êtes pas gêné par le bruit de la locomotive ?
Disons que moi, je suis un client de la loco, alors peut-être que je ne suis pas objectif, mais si, en fait, je le suis. Hein. Je suis le voisin direct, le plus proche de la loco, hein, puisque j'habite derrière la loco et vraiment proche des fenêtres de la loco. Et personnellement, je ne suis pas gêné du tout par le bruit des concerts. Et même, j'y vais de temps en temps, mais des fois, je me lève le lendemain et il y a des concerts, ben, j'entends à peine. Et c'est vraiment pas ça qui me gêne, quoi. Par contre, à côté, il y a une autre association qui s'appelle la Gantérelle, qui le vendredi soir joue de la musique folklorique. Je les entends beaucoup plus que la loco, malgré qu'elle ne me dérange pas non plus.
Qu'est-ce que vous pensez de l'association qui s'est créée en face, qui a pour objet la défense des intérêts des riverains du boulevard Gambetta ?
C'est une association qui me pose question. C'est quoi exactement ?
La défense des intérêts des riverains du boulevard Gambetta contre toute forme d'incivilité et transgression à la loi.
Voilà, déjà il y a la première forme avec la défense des intérêts, de savoir à la place des gens quel est leur intérêt. Bon, apparemment, cette association, elle a pour but clairement de faire fermer la locomotive. Et c'est une question qui se pose par rapport à la vie citoyenne, la vie culturelle. Ben, forcément, le centre-ville, ça veut dire qu'il y vit, il s'y passe des choses et également une vie culturelle, une vie nocturne.
Les amoureux des trains ont décidé, en soutien à la locomotive, de recréer la CAL, l'association culturelle des amis de la locomotive, afin de permettre de conserver ce lieu intemporel, reflet de l'âme mi-avoise, comme nous l'explique Stéphanie Roquet. Selon vous, quel genre de soutien peut apporter l'association des amis de la locomotive ?
Les amis de la locomotive peuvent apporter déjà un soutien à Inaki, parce que ce qui se passe, c'est pas normal, et que si jamais on commence à ne pas se battre pour des cafés comme la loco, et bien, on va finir qu'à Miou, il va y avoir plus rien du tout pour sortir et pour faire la fête, voilà, simplement. Donc nous, on a monté une association pour aider Inaki, et on va tenir jusqu'au bout, voilà, on va défendre la cause d'Inaki, et voilà.
Enfin, M. Aranceta, chauffeur de la locomotive, nous dit quelques mots sur sa situation. Lors de la réunion en vue de la création de l'association culturelle des amis de la loco, vous avez dit « on ne demande pas à la mairie plus que les autres, mais la même chose que les autres ». Qu'entendez-vous par là ?
Voilà, on demande les droits de pouvoir travailler normalement. Je veux dire, quand on loue une terrasse à la municipalité pendant l'été, qu'on puisse l'exploiter normalement. Je veux dire que si les gens ils mangent en terrasse, ils puissent manger tranquillement son repas. Que s'ils viennent boire un coup après, pour se détendre après le travail, ils puissent boire un coup sans être obligé de chaque deux jours être interrompu parce qu'il a un voisin qui appelle, parce qu'il parle fort, parce qu'il rigole en terrasse. Quoi. Bah, pas plus que ça, quoi.
Parce que vous avez des plaintes plus que les autres tenanciers de bar ?
Voilà, je n'ai pas les moyens de comparer, mais vu toutes les fois que j'étais convoqué au commissariat, je ne me suis jamais retrouvé avec un collègue de boulot là-bas. Alors je suppose que si on calcule le même nombre de jours, on aurait dû se retrouver ou se croiser au moins une fois. Quoi. Après, ce que je veux dire aussi, dans une ville comme Millau, tout le monde il sait comment ça se passe dans tous les cafés de la ville, et voilà, il y a des cafés qui sont mieux tenus que d'autres. Moi, je trouve que tout chaque café, il a un rôle à faire comme dans la ville comme dans les campagnes, quoi. Bon, plus à Millau qu'ailleurs, comme c'est une ville touristique. Par contre, il ne faut pas oublier qu'à Millau, après la saison touristique, il y a les Miyawa qu'on habite dedans et qu'on habite toute l'année, quoi. Et que je pense qu'on a autant de droits au plus que ceux qui viennent passer quelques jours, quoi.
Oui, c'était donc Inaki Aranceta qui est patron de la loco à Millau. Donc je vous expliquais qu'il était assigné au tribunal de Millau mardi 20 mars. Donc il faut dire aussi, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir, puisque je pense que... Je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait. Moi, je n'étais pas au courant de ces histoires-là. Donc, on lui reproche également de ne pas avoir fait d'études acoustiques. Donc, je ne sais pas si vous savez...
C'est-à-dire que lui, il n'est pas devenu ingénieur du son comme Nico, par exemple. C'est ça ? Non, mais bon, enfin, on voit tout de suite quand même dans quel registre on est. Je ne sais pas si Manu est d'accord.
Tout à fait. Ouais. On recherche, on est en train de chercher là. Voilà, des trucs sur l'œuf pour voir si on peut le, voilà, le fermer ou autre chose, peu importe.
C'est malheureux.
Ouais,
c'est...
Des études acoustiques du truc, oui, pourquoi pas. Après tout, oui, on devrait normalement demander à ce que voilà, le local soit légèrement isolé. Voilà. Mais on le demande à tous à ce moment-là, pas forcément qu'à lui.
Mais quoi. Oui, non, mais les études acoustiques, on les demande à tous. Et c'est pour ça, justement, on lui reproche de ne pas les avoir faites lui. Et vous savez en quoi ça consiste ? C'est juste le fait qu'il y a un petit plomb qui est mis sur la sono des cafés-concerts. Et si jamais on dépasse le niveau autorisé, ça fait sauter la sono.
C'est comme les scellés. D'accord, quoi.
Une première fois. Si dans la même soirée, vous recommencez à faire sauter ce plomb, il y a tout... Enfin, ça saute à nouveau, sauf que là, vous ne pouvez pas le remettre vous-même. Il faut faire appel à un technicien d'une entreprise extérieure. Hein, donc
qui
le payer,
prend 250
évidemment,
euros.
Oui, voilà, etc., etc. Or, il se trouve qu'en plus, il n'y a 47 ans, il n'a pas une sono lui-même. C'est les groupes qui viennent, qui apportent leur sono. Donc, la seule façon de mettre ce système, c'était de le mettre sur, toute son, sur tout son bar, en fait, sur son tableau électrique, ce qui fait que ça fait sauter tout le truc. Enfin, c'est quand même un truc
curieux.
Quoi. Je ne connaissais pas ce phénomène.
Tous les cafés-concerts, normalement, sont censés avoir ce truc-là.
D'accord. Alors bon, moi je pense qu'il s'agit d'incompréhension entre des citoyens qui n'arrivent malheureusement plus à se parler, c'est-à-dire avoir un dialogue, une conversation classique. On peut ne pas être d'accord avec les gens avec qui on vit, c'est normal, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais là, tout d'un coup, on prend des intermédiaires. Et alors, si c'est possible, la police, hein, et puis on va jusqu'en justice, puis on encombre d'ailleurs, au passage, les tribunaux. Et puis finalement, est-ce que c'est le rôle de la police de faire des descentes, à part pour aller boire un coup, hein, éventuellement.
Quand quelqu'un vous appelle parce que...
Dans un bar musical, je pense qu'il y a quand même d'autres choses plus importante à faire, du travail vraiment de fond plutôt qu'effectivement d'embêter ce monsieur. Je pense que si vraiment il y avait des citoyens responsables, plutôt que de monter une association de ce type-là avec ce libellé qui, entre nous, fait quand même franchement rire. Enfin bon, il annonce déjà il annonce la couleur. Enfin, c'est ridicule, mais malheureusement effectivement, ils n'ont que ces armes-là, alors que descendre à la loco, aller boire un coup avec le patron, je suis désolé, bon, j'habite à côté, de temps en temps c'est un peu fort, ce serait pas possible de faire baisser, ou est-ce que vous avez phoniquement isolé votre local, je sais pas, on essaye d'entamer un dialogue. On a eu un peu, si je peux me permettre,
voilà, oui,
ici
ça, raconte.
Voilà ce même type de cas à Rodez, avec un certain nombre donc de cafés aussi, hein, alors qu'ils sont pas tous des cafés musicaux, hein. Bon, il y en a trois qui de temps en temps invitent des groupes. Alors il y en a quatre qui sont vraiment dans un quartier très identifié, qui s'appelle Saint-Cyrice, c'est un carrefour, et ils sont quatre coins du carrefour. Un carrefour très important où de nombreux véhicules passent pour monter dans le centre-ville ou pour descendre vers la rocade. Bon, c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de problèmes lorsque les terrasses sont ouvertes, qu'il y a de l'ambiance, que les quatre cafés sont ouverts et que les cafetiers ne peuvent pas tenir tout le temps leurs clients. Il y en a qui vont se balader avec le verre ou la bouteille au milieu du carrefour. Bon, ça fait des ordres, ça fait du bruit surtout, c'est vrai. Puis ça finit parfois à l'hôpital. Donc là, il faut prendre évidemment un certain nombre de mesures. Mais ce n'est pas tellement la musique là qui est mis, le volume sonore ou la musique, c'est plutôt ce qui peut déborder sur la voie publique. Manu, je pense que tu...
Il faut les faire ouvrir à tour de rôle, c'est tout.
Bon, alors évidemment, ils n'ont pas envie. Hein. Je crois que tout le monde a envie de vivre. Non, je crois que là, alors justement,
mais
il va y avoir...
D'un repas aussi.
Voilà, alors dans un autre café,
sympa,
dans un, qui est lui isolé, qui se trouve rue de Bonal, qui s'appelle La Pachole. Il y a eu aussi quelques incivilités, comme on dit aujourd'hui, à la sortie de certains concerts. Il y a eu des concerts un petit peu forts, mais surtout des personnes qui, à la suite de certains concerts, ont brisé des vitres, ont fait particulièrement quelques dégradations, hein, dans cette rue, qui ont été effectivement, qui sont visibles malheureusement encore aujourd'hui. Donc pour apaiser un petit peu les tensions, avec les riverains et l'association là aussi qui existe, mais qui s'est pas montée exprès hein, contre ça, mais qui existe déjà, une association voilà, qui fait de l'animation, il y a eu, je crois, c'est une bonne idée de la part du patron de La Pachole, une idée et si on se parlait, justement, donc c'est ce que je disais. Donc il a organisé la semaine dernière un repas, enfin un repas, non c'est pas vraiment un repas, c'est un apéro avec quelques cacahuètes pour inviter tous ceux qui habitent autour de son bar à venir dialoguer, boire un coup d'abord, dialoguer, mieux se connaître, essayer de voir s'il n'y avait pas aussi des solutions au bout du compte. Et ça a marché, ça a marché, ça a marché, il n'y a pas eu de refus. Donc les gens veulent quand même se parler, c'est possible encore aujourd'hui dans ce pays.
Et est-ce que ce bar avait des soucis avec les riverains?
Il a eu quelques soucis avec des riverains. D'accord. Qui ont porté plainte aussi. Enfin, ils n'ont pas porté plainte, ils ont juste appelé la police. Voilà, il y a du bruit, il est 1h du matin. Encore, c'était beaucoup plus tard. Parce que dans l'affaire de Millau, on a quand même l'impression que les riverains exagèrent un tout petit peu. Ou plutôt, c'est la police qui exagère parce qu'ils font des descentes à 22h.
C'est un peu les deux, parce qu'il se trouve que dans l'association de riverains, il y a des policiers qui habitent.
Il y a un policier
un petit mélange.
Qui est actuellement...
C'est pas un policier en exercice, mais bon. Ouais.
D'accord. Alors... Bon, c'est dommage.
Il y en a même en face, c'est ça aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. Il est dans l'association voilà, des riverains, c'est même lui qui
d'accord.
l'a créé.
Alors, est-ce qu'on va jusqu'à dire que tous les policiers n'ont pas l'oreille musicale ou n'aiment pas la musique ou n'aiment pas l'animation?
C'est dommage parce que ça
c'est
a adouci les
mœurs. Mais il est tombé malheureusement sur des mauvais coucheurs. Ici à Rodez, on essaie d'un côté comme de l'autre avec ces deux affaires. Dans l'autre affaire du Carrefour Saint-Cyrice avec ces quatre cafés, c'est plutôt la mairie qui a pris la médiation en main, mais qui veut rassembler tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde se parle à une table ronde comme celle-ci dans notre studio. Et qu'on se dise les choses. Bon, et maintenant, il y a toujours des solutions.
Je crois que la mairie de Millau a essayé aussi, mais bon. Mais on peut toujours suggérer à Iñaki Arantzeta de faire un apéro où il invite ses voisins.
Voilà. L'apéro a bien marché. C'est-à-dire, là, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas de représentant, ni de la mairie, ni d'autorité autre, je veux dire, de la sécurité publique, la police, etc. Donc, ils ont fait ça entre eux pour essayer de régler les problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même essayer de se reparler et... Enfin, il me semble qu'on peut y arriver, même si tout de suite, on n'aura pas forcément des résultats. Bon, c'est vrai que quand on est dans une petite rue, un café où il y a un groupe de rock ou de métal, ça fait du bruit. Hein. Ça, c'est normal, mais c'est fait exprès, si j'ose dire. Hein. C'est comme ceux qui disent « Ah mince, la manifestation, elle m'emmerde aujourd'hui, je ne peux pas prendre le train, la grève m'emmerde, je ne peux pas prendre le train. » Ben oui, mais c'est fait exprès. Et quand on fait un concert, ben, ça fait du bruit, oui, c'est fait exprès.
Non, je dirais que c'est comme les voisins qui portent plainte quand ils habitent à côté d'une ferme parce que le coq chante ou parce
pareil.
Que la machine à traire fait du bruit.
Exactement.
Bon, quand on vient s'installer, bon, moi si j'ai pas envie de bruit, si j'ai envie d'être vraiment tranquille, honnêtement, je vais pas louer ou acheter un appartement en centre-ville.
Non bah, mais
ça paraît évident.
Il me semble,
forcément, il y a du bruit.
Pour clore sur ce sujet, il y a encore un son à écouter, mais il me semble. Alors, il me semble que on peut arriver à s'entendre et à trouver des solutions, voilà, entre gens de bonne compagnie.
Pas de son à coûter, mais je voulais tout simplement terminer en disant que l'issue du procès serait le 15 mai et que l'avocate, pour elle, de toute façon, les faits qui sont reprochés ne sont aucunement prouvés.
RTR, c'est Ménage à Troyes, Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et bien sûr votre radio ruthénoise. On écoute Barcella tout de suite. Barcella qui était en programmation à la MJC. Nous l'avons reçu dans ce studio. Regardez la belle dédicace qu'il nous a laissée sur son affiche. Barcella.
Avec le morceau Madouce, extrait du dernier album qui sort dans très peu de temps avec nos amis d'Ulysse Prod qui sont à Figeac.
Tout ça est magnifique.
J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perles, un pimpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que fais-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu croises au destin. Peut-être as-tu peur des baladins, mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire, au gré de nos astres lunaires, j'écris des poèmes pour te plaire. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Vu que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce.
Barcella sur votre radio non commerciale aveyronnaise dans ce magnifique magazine Ménage à Trois. La parole est à l'accusé.
Non, je suis accusé de quoi?
Mais non, Manu, mais voilà, tout de suite, il monte sur son grand pétassou.
Tu es accusé de pétassouiller.
Tu aurais pu dire que les pétassous peuvent aider à résoudre les problèmes que nous rencontrons dans la chère ville de Bio.
Voilà, à la loco, par exemple.
Voilà, le pétassou. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de pétassou?
J'aimerais bien savoir.
Hein, le pétassou de Trèves.
Je sais un petit peu. On en a parlé à Radio Larzac.
Alors, dans le Nord Aveyron, on n'est pas du tout au courant.
Voilà.
Eh ben, avec le retour du printemps, parce que c'est le printemps depuis pas longtemps, on retrouve ces fameux passeurs de légende qui pouvaient servir à une certaine époque à avaler, à se décharger, à détruire les charges négatives que les gens accumulaient sur eux pendant l'hiver. Voilà. Et c'est une expo de Katia Fersing, une expo qui a lieu à Millau, hein, qui est encore visible. Et c'était quoi ce pétassou? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Katia va nous l'expliquer, mais voilà, c'est monsieur, un des monsieur, on pourrait dire des monsieur carnaval, parce que c'est pas dit comme ça non plus, mais on parlera après de ces fameuses charges négatives, et c'est bien, ça fait bien une suite.
De ces exutoires.
Exutoires, exactement, de ces plombs, de ces soupapes.
Voilà, on pétait de temps en temps, je le dis, attention, pétez les plombs, parce que sinon, vous allez finir comme Nicolas.
Donc ah non, suite, pas lui.
Non, pas lui. L'autre. Bon,
l'autre.
Ah oui.
Alors, on m'a découvert.
Mais lui, c'est Nico, c'est pas pareil.
Je l'appelle pas souvent Nicolas.
Elle est chargée de mission à l'office de tourisme de Roquefort et c'est Katia Fersing, elle se présente.
C'est une nana qui habite à Millau, qui est revenue là depuis 2-3 ans dans les parages, après avoir été à droite à gauche. Et du coup, elle essaye de redécouvrir un peu son coin en prenant le temps de voir ce qui s'y passe, de rencontrer les gens qui l'habitent, de voir les gens qui le vivent, ce pays. Et donc, j'ai de la chance parce que du coup, je bosse, je fais de l'ethnologie et c'est un endroit, un espace qui me permet d'aller chercher ce genre de choses. Donc je le fais sur le plan professionnel, puisque je travaille à Roquefort sur un projet autour de la mémoire orale de l'AOC. Et puis je le fais à titre plus personnel dans le cadre de projets associatifs, notamment avec la Tortuga, qui travaille sur le patrimoine oral et sur les traditions. C'est assez vaste et large ce que je te dis, mais Et voilà, et c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui, travailler sur le pétassou. Parce que
alors, c'est quoi ce pétassou de trêve?
Mais le pétassou de trêve, c'est un personnage assez extraordinaire qui sort une fois par an, qui arrive à Trèves le 3 février, le jour de la Saint-Blaise. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Même avant, c'était ça. Mais... Et donc, il est tout de pétasses vêtues, plein de couleurs. Et il arrive avec son grand balai de genêt, là, et sa vessie de porc dans le dos. Et il vient ébouriffer les consciences. Et il vient aussi balayer l'hiver et laisser... Il aide à ce que le printemps arrive, en fait, aussi. Donc, la vie qui renaît, le cycle de vie qui repart, c'est aussi tout ça, la symbolique du pétassou. C'est aussi un personnage qui rassemble les gens, qui les fait... par exemple, les gens qui suivent le pétassou, ils vont aller dans les fermes, ils vont aller dans les maisons du village, et ils vont aller avec des musiciens, notamment l'accordéon... ou le violon à l'époque, et aujourd'hui c'est une peña, c'est encore différent, mais toujours cette idée de musique qui accompagne ce personnage, puisque ce personnage il fait danser les femmes et les hommes, qu'elles veuillent ou pas d'ailleurs, les femmes, il les fait danser, et voilà, donc il est là pour remuer un peu tout le monde, c'est ça un peu son rôle, j'ai l'impression.
Dans l'expo, il y a deux mots qui m'ont accroché, c'est tracas et charge négative, sous les aquarelles dans les marques, là. Et il parle que le pétassou, en fait, était une soupape de sécurité, c'est-à-dire qu'il permettait aux gens, pendant ces fêtes-là, de se lâcher, chose qu'on ne fait plus maintenant.
Oui, alors là, peut-être, et c'est là qu'on rebondit un peu sur la dimension carnavalesque, en fait. Hein. C'est un endroit un peu cathartique, où on se libère aussi, et où on fait tomber les normes, les limites, les restrictions. Plus rien de ça ne vaut, et tout est inversé, et tout est permis. C'est l'anarchie, un peu. Alors oui, il y a des aspects un peu comme ça.
Alors je reviens à toi, maintenant ethnologue toute fringante. Est-ce que c'est un travail de photographe qui fait de l'ethnologie ou c'est un travail d'ethnologue qui fait de la photo?
C'est un travail d'ethnologue qui fait de la photo, je pense. Mais aussi de photographe qui fait de l'ethnologie ou qui l'oublie aussi parfois, l'ethno, parce que quand on est avec l'appareil photo, bon, mais oui, on cherche le sens, on essaye de faire, de mettre en lumière le sens qu'on peut voir dans les scènes qu'on prend en photo, les moments, les instants, les personnages qu'on photographie. Mais parfois, ça va au-delà. Parfois, ça va juste être une esthétique ou la magie d'un instant. Ouais, c'est vraiment les deux s'entremêlent, en fait, ou pas. J'aime bien donner un cadre et dire quelque chose à travers ce cadre. C'est un outil qui me parle, ouais. Puis je trouve qu'il est puissant. Il peut être puissant. Après, bon, c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire une photo forte et à tous les niveaux. C'est presque peut-être jamais même. Mais enfin bon, voilà. L'idée, c'est de se laisser aussi porter par cet outil et de faire de laisser l'image dire des choses, ou en l'accompagnant, ou en la laissant parler par elle-même, en fait. Ouais.
Tu pourrais nous reparler de la tortuga? Est-ce que c'est quelque chose qui continue à exister, puisque c'était une vieille assos, enfin un truc dans lequel tu bossais avant, et ça revient?
Ben, c'est que la tortuga, elle a des périodes où elle est un peu en sommeil, d'autres où elle se réveille. Elle fonctionne par projet, en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui est là et qui bouge et qui vit, ça se réveille et ça se met en ébullition. Et donc, elle est toujours par là. Elle va bien. Elle travaille sur des récits légendaires locaux. Sur des collectes, des collectes de récits légendaires, avec tout un travail d'illustration aussi de ces récits, de narration aussi par les conteurs eux-mêmes, par ceux qui racontent ces légendes, par les passeurs de légendes, en fait. Et donc non, elle est sur quelques projets sympathiques quand même, la Tortuga. Après, elle le fait dans son coin, elle ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais de temps en temps, elle propose des choses.
Mais elle est allée loin, hein, puisqu'elle était chez les morts là-bas au fin fond de l'Andalousie, non ?
Ah oui, c'est même là-bas qu'elle est née, en fait. C'est là-bas qu'elle est née, puisque c'était des récits légendaires hein, qui ont impulsé un peu la naissance de cette association, qui était partie, c'était du collectage, et c'est pareil, ce collectage, il a donné lieu à l'édition d'un album illustré, à partir duquel il y a des projets pédagogiques qui se sont mis en route, dans les écoles des villages où avaient été collectés les récits, etc. Donc oui, elle est vraiment née là-bas. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle porte ce nom. Elle est à moitié andalouse en fait, la Tortuga.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Je souhaite vraiment une longue vie au Pétassou de Trèves parce que il est vraiment riche de sens, ce personnage, et moi j'en connais qu'un tout petit peu sur lui pour l'instant, mais je pense qu'on a tout intérêt à lui prêter attention.
Mais toi qui travailles sur ces traditions, sur le carnaval, il y en a ailleurs, non ? Des pétassous qui ne s'appellent pas comme ça, mais qui ont la même fonction ?
Oui, même le pétassou, d'ailleurs, c'est un terme qui est pas mal utilisé dans le sud de la France, à d'autres endroits. Il y a des costumes de ce type qui existent dans d'autres pays aussi. Il n'y a pas que à Trèves, mais à Trèves, il a ses spécificités. Et justement, c'est ce qui va nous intéresser le 23 mars, lorsque nous allons faire une conférence qui réunira donc des chercheurs, donc ce sera des ethnologues qui sont spécialistes des questions du pétassou et des traditions carnavalesques du sud de la France, et les habitants de Trèves en tant que porteurs de cette tradition, et donc qui sont c'est eux qui incarnent la pratique, qui ont les pratiques, et donc on va vraiment essayer de réfléchir ensemble aux spécificités de cette tradition du pétassou de Trèves, tout en les resituant dans quelque chose de plus global, pour voir justement quelles sont les influences extérieures ou comment ça se passe ailleurs. Voilà.
Eh bien oui, voilà. Alors je précise, il y a plusieurs précisions à donner. Alain Marc, Catherine avait
raison.
Il faut qu'on précise qui est cet Alain Marc, parce que chez nous c'est un député, mais bon, c'est aussi une autre personne et qui est un aquarelliste connu. Où se passe cette expo ? Mal se passe,
s'il vous plaît.
L'espace culture derrière la mairie de Millau. Et maintenant, où se trouve Trèves ? Trèves, c'est vous prenez la vallée de la Nourbie et quand vous voyez le Mont Aigoual, vous partez vers lui et au milieu se trouve le petit village de Trèves, voilà. Donc pourquoi ce sujet Est-ce qu'il existe encore, ou est-ce qu'on a encore besoin, mais je pense que oui, on en a bien besoin, de ces fameuses soupapes de sécurité pour que les gens puissent se défouler à la fin de l'hiver?
Je trouve que ce serait une très bonne idée qu'il y ait un pétassou à la loco, par exemple. Ou plutôt pour les voisins d'en face.
Pétassou oui, mais alors... Moi, je me disais le carnaval, donc quel lien, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé direct. C'est un ancêtre, en fait, un petit peu. C'est une forme.
C'est une forme locale.
C'est un carnaval rural, on va
rural.
Dire. Tu vois, moins riche.
Moins organisé, on va dire.
Moins organisé, tu vois.
Oui. Une forme locale.
Locale, oui, tout à fait.
Alors,
c'est un carnaval. Mais bon, les carnavals sont... Ouais, enfin, on ne sait pas.
Donc, à Dunkerque, on a quand même... Petits... Alors, ce n'est pas du pétassou, hein. Vous savez, il y a les géants. Alors,
Mais c'est organisé, là. Parce qu'il faut les fabriquer, il faut...
Peut-être que
y a du monde derrière.
Alors, peut-être que Dunkerque, en tout cas, fait partie... Parce que là, il n'y a pas de géants à Dunkerque. Je disais ça simplement parce qu'il vient de se terminer, ce carnaval, et que les carnavaleux, là-bas, puisque nous en avons un ici émérite, ce n'est ni plus ni moins que notre président. Président vénéré, qui lui a fait pendant de très nombreuses années, puisqu'il est dunkerquois, ce fameux carnaval qui justement est à peine organisé. Vous savez, à un moment donné, on jette aussi des harengs du haut de... Oui, on jette des harengs à la foule en folie, à tous les carnavaleux qui sont déguisés en femmes. Et je crois que le pétassou, il est un peu androgyne aussi.
Ah, tout à fait, hein, on ne sait pas.
Là, c'est un peu indéterminé aussi, c'est des hommes qui se déguisent en femmes, enfin, on ne sait pas trop, hein, qui se maquillent.
Un personnage habillé de pétasse, comme son nom l'indique, dont des bouts de tissu, et c'est très coloré. C'est très, très, très.
Et je crois qu'on a, on a besoin de ça dans la mesure où le carnaval aujourd'hui, institution, est beaucoup trop organisé. Donc, c'est ce que tu disais. Et finalement, on ne peut pas vraiment s'exprimer, en tout cas se laisser complètement aller, comme on pouvait le faire, je suis sûr, aux plus belles heures des pétassous qu'il y avait dans tous les villages ou dans les premiers carnavals des fous. Hein, on les appelait au début les carnavals des fous au Moyen-Âge, où il n'y avait pas cet encadrement, je dirais, de la société, hein, parce qu'elle veut maîtriser là aussi absolument la fête. Le problème, c'est qu'on veut maîtriser la fête. Et c'est aussi le cas dans cette histoire de la loco. Pourquoi veut-on maîtriser la fête ? C'est assez curieux, alors que c'était fait justement au contraire, pour aller au-delà, hein, je crois, de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, donc vivre des émotions et des choses qui sont extraordinaires, hein, au mais premier sens du terme.
Dans quel sens, je voudrais savoir, dans quel sens vous parlez de se laisser aller complètement ?
Mais oui,
mais non, mais parce que bon, on peut très bien aller à des concerts et se laisser aller complètement.
C'est le cas. Après, dans certains concerts.
Oui, bah, tu veux un concert, déjà tu payes pour entrer. Et puis c'est organisé derrière. Il y a déjà un machin, il y a un qui vient, qui est payé, qui vit de ça. Non, là, ça n'a rien à voir.
Il y a un marketing, de toute façon.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas de marketing.
Il y a une fabrication un petit peu du spectacle en amont. Hein. Il y a une fabrication de l'attente. Je crois que ces fêtes, en fait, c'était totalement improvisé. Hein. Peut-être autour d'une figure. Peut-être
oui,
autour
c'était
d'une...
fabriqué, oui. Puisqu'il fallait préparer les costumes,
au minimum.
Et refaire voilà, des trucs.
C'est oui, mais, ça. Moi, non, mais je veux dire l'attitude. Non, moi, je parle de l'attitude des gens.
Une idéalisation de ce qui se passe avant, parce qu'on sait peut-être pas bien comment ça se préparait, etc. Faut peut-être pas idéaliser non plus. Hein. Ça se trouve, pour préparer le pétassou, bah, c'était quelques-uns qui faisaient ça, qui mettaient les autres de côté. J'en sais rien. Hein. C'était peut-être pas non plus idéal. J'ai
bien
pas
sûr.
Cassé le truc.
Ah non, non, mais enfin, oh,
non,
oui,
non,
tout
non,
à
mais
fait.
T'as
tout
ouvert
à fait,
la
après...
discussion là-dessus. Mm-hmm. Non, je sais pas. Moi, je suis allé au carnaval de Millau le mois dernier. Ben, je pense que c'est assez sympa. Bon, c'est vrai, c'est organisé, mais je crois que, par exemple, la compagnie La Manivelle qui était sur le char, ils ont bien pété les plombs, ils ont bien déliré, c'était assez rigolo. Ils jetaient des billets, enfin, voilà, c'était marrant.
On peut peut-être regretter qu'il y ait un début et une fin quand même à ça. Justement, c'est que en fait ces fêtes-là duraient plusieurs jours, comme le carnaval de Dunkerque qui encore aujourd'hui dure plusieurs semaines même, et ça s'arrête, j'allais dire, quand tout le monde est fatigué, hein, quand il n'y a plus du tout d'énergie et que ça y est, le printemps est là. Et en fait, ça se faisait un petit peu plus peut-être naturellement. Alors, est-ce qu'on idéalise nature, culture? Oui, bon, il y a un pont entre les deux, évidemment. Hein, c'est
mais c'est là qu'il faut trouver cette fameuse limite. On ne sait pas où aller, c'est ça.
Puis, c'est aussi que les gens, ils ne se lâchent pas toujours.
Non.
Mais ça,
c'est ça.
Y a non, pas mais le pétassou t'aide à te lâcher. La façon dont tu, si tu veux, il vient te voir et tout, c'est aussi une façon de.
Non, puis je
de
crois
t'aider
qu'il faut...
à lâcher, quoi.
Il ne faut pas qu'il y ait une obligation à se lâcher. Je veux dire que, voilà, on fait la fête, on participe ou on ne participe pas, mais au moins, on peut y aller s'il y a des circonstances qui sont favorables. En tout cas, dans les petits villages, c'était possible. Peut-être que dans des grosses agglomérations, c'est un petit peu différent. Quoique le carnaval de Rio, pas celui qui est encadré, justement, pas celui sur, voilà, qui est délimité, où il y a les fameuses cariocas qui sont notées, etc. Non, non, mais en dehors de ça, dans les quartiers, j'ai bien l'impression quand même que c'est ça, hein, qu'on peut vraiment exulter au premier sens du terme.
Quelqu'un qui non, enfin, tout à l'heure, on discutait aussi, il y en a qui parlaient de feria, des fameuses feria.
Oui, ouais, je
voilà,
pense à ça.
Est-ce que c'est comparable, pas comparable
Bah, pour certaines personnes, je pense que oui. Ça doit être des moments où ils adorent ça parce qu'ils sont, ils se lâchent complètement. Après, personnellement, j'y suis jamais allée parce que ça m'intéresse pas tellement. Pour moi, il y a trop de monde, puis j'aime pas le côté animal. Bon, je pense que même si c'est pas
mais
une corrida.
Mais qu'est-ce que tu as contre les animaux?
Pas rien, bon, justement. Voilà. Non, mais bon, laisse le pétassou entrer en toi, c'est ça.
Voilà, on va pas faire de psy, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça permet une bonne base de réflexion sur ce qu'est la fête, peut-être, ce qu'a été la fête, ce qu'elle est aujourd'hui. Et finalement, il faut aller voir cette exposition, effectivement. Merci Manu.
Voilà, encore quelques jours, quelques semaines à l'espace culture de Millau derrière la mairie.
Oui, puis je vous renvoie aussi historiquement, je pense maintenant au Bacchanal. Hein, vous savez, chez les Grecs, c'était terrible aussi. Hein,
oui,
c'était
voilà.
À peu
non
près,
mais,
ouais, mais c'était réservé à une élite.
Non, mais
ça,
je pense quand même que vous avez raison dans le sens où, à mon avis, on est beaucoup plus dans le contrôle de son image aujourd'hui qu'avant.
Je le crains.
Je pense.
Je le crains.
Après, est-ce que c'est le cadre, est-ce que c'est... Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, je pense.
Et si on faisait la fête maintenant ?
J'ai envie de dire trêve de plaisanterie et bravo, si on passait à autre chose.
Mais tout à fait.
Parce que le technicien s'exprime. Hein. J'ai ramené le technicien de Radio Larzac. Vous avez peut-être pas l'habitude, mais chez nous, il s'exprime. Il a le droit de parler.
C'est une très bonne chose. Un technicien ne parle jamais assez. Hein, parce qu'il a plein de choses à dire, notamment sur la programmation. Nico.
Le morceau là ?
C'est la Sioux ?
Ouais, c'est la Sioux avec le morceau This World. It's our fear, real danger. This world ain't simple. But I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Beg it up, but you don't understand. This world ain't simple, but I'm strong, I know how to stay out. And I'll find my way, cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, and yeah. Oh, whoa, whoa. So won't you just give it up, cause you don't understand.
Magnifique voix de Célassiou dans ce ménage à trois qui arrive et qui entame son tout dernier quart d'heure dans ce magazine en compagnie de Catherine de Radio Larzac, Manu Radio Saint-Af, Saint-Afrique et puis votre serviteur de Radio Temps Rodez.
Alors tu nous parles de...
Dans la série, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions avant de faire une grosse connerie.
Merde, qu'est-ce qu'on a fait ?
Demandons-nous...
De quoi vas-tu parler ?
Demandons-nous, chers amis, si la démocratie est soluble dans le suffrage universel. Ou, autrement dit, plus simplement, voter a-t-il encore un sens ? Question, comme vous allez l'entendre, qui ne date pas d'hier.
Voter, c'est abdiquer. 1885. Par Élisée Reclus. Lettre adressée à Jean Grave, inséré dans le Révolté du 11 octobre 1885. Clarence, Vaux, 26 septembre 1885. Compagnon, Vous demandez à un homme de bonne volonté qui n'est ni votant ni candidat de vous exposer quelles sont ses idées sur l'exercice du droit de suffrage. Le délai que vous m'accordez est bien court, mais ayant au sujet du vote électoral des convictions bien nettes, ce que j'ai à vous dire peut se formuler en quelques mots. Voter, c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est renoncer à sa propre souveraineté. Qu'il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire, muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c'est être dupe. C'est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement d'une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Vos mandataires ayant à légiférer sur toute chose, des allumettes aux vaisseaux de guerre, de l'échenillage des arbres à l'extermination des peuplades rouges ou noires, il vous semble que leur intelligence grandisse en raison même de l'immensité de la tâche. L'histoire vous enseigne que le contraire a lieu. Le pouvoir a toujours affolé. Le parlotage a toujours abêti. Dans les assemblées souveraines, la médiocrité prévaut fatalement. Voter, c'est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils accordent leur suffrage. Et peut-être ont-ils raison le premier jour, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a son lendemain. Dès que le milieu change, l'homme change avec lui. Aujourd'hui, le candidat s'incline devant vous, et peut-être trop bas. Demain, il se redressera et peut-être trop haut. Il mendiait les votes. Il vous donnera des ordres. L'ouvrier, devenu contremaître, peut-il rester ce qu'il était avant d'avoir obtenu la faveur du patron? Le fougueux démocrate n'apprend-il pas à courber l'échine quand le banquier daigne l'inviter à son bureau, quand les valets des rois lui font l'honneur de l'entretenir dans les antichambres? L'atmosphère de ces corps législatifs est malsain à respirer. Vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption. Ne vous étonnez pas s'ils en sortent corrompus. N'abdiquez donc pas. Ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, défendez-les vous-même. Au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d'action futur, agissez. Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejetez sur les autres la responsabilité de sa conduite. C'est manquer de vaillance. Je vous salue de tout cœur, compagnon.
Voilà, Élisée Reclus. Je voulais vous faire entendre pour la fin de, ce magazine ce petit texte, cette lettre en fait, qui a été écrite par ce géographe. Très connu, mais bizarrement peu repris aujourd'hui dans les manuels scolaires. On comprendra peut-être pourquoi, parce que ses recherches en matière de géographie étaient parfaitement scientifiques. En revanche, ses prises de position politiques étaient très tranchées, aussi tranchées qu'une gorge, celle du Tarn par exemple. Bon, il était anarchiste. Voilà. Moi, j'ai trouvé intéressant quand même de faire entendre cette voix-là, puisque on est en période évidemment éminemment préélectorale et personne, enfin en tous les cas dans les discussions de tous les jours, me semble-t-il, ne se pose assez cette question. Est-ce que l'on n'abdique pas, tout simplement, sa volonté personnelle, ses opinions, ce que l'on pense, à quelqu'un d'autre, à pensant que celui-ci, très naïvement, va pouvoir porter les idées dont on le charge. Finalement, c'est ça, normalement, la démocratie. On devrait pouvoir voter pour des gens qui nous représentent réellement. En fait, ça n'arrive jamais. Ce qu'explique Élisée Reclus, c'est que, bien sûr, en ce moment, il y a l'égence. Bien sûr, ils sont presque en dessous de nos genoux, tous ces candidats. Mais le jour où ils sont élus et où l'élection est terminée, alors là, tout d'un coup, ils se redressent et c'est nous qui sommes à genoux. Alors, voilà, c'est une petite réflexion. Abdiquer, c'est voter. C'est peut-être une provocation pour certains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine ou Manu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce texte qui, évidemment, date du 19e siècle, fin 19e siècle, mais qui, à mon sens, en tous les cas sur le fond, est toujours d'actualité et discutable.
C'est un peu vrai ce qu'il dit. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Après, comment, au 21e siècle, va-t-on gouverner de cette manière ? Pourquoi pas, c'est fort possible, j'en sais rien. J'ai pas les billes pour organiser. Parce que si chacun s'organise, ça va être un immense bordel.
Oui, Catherine, je ne sais pas. Je sais pas. On n'a pas essayé, donc on ne peut pas le savoir.
Bon, ça, c'est vrai. On a essayé dans des petits comités à certaines périodes. Bon, certains parlent de la commune, mais la commune, ça commence à dater. Bon, il n'y a pas que la commune, il y a d'autres endroits, des moments. Dans des petits comités, toujours. C'est quand même toujours délicat, dès qu'on est assez nombreux, de ne pas passer par la représentativité. Donc effectivement, ce problème, il se pose. Après, voter, c'est abdiquer, à part la provocation qui ne me gêne pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que voter, quand il dit, j'ai noté, au lieu de voter, agissez. Moi, je ne dis pas au lieu de voter. On peut voter et agir. Tout à l'heure, tu disais qu'on confiait naïvement sa voix. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui confient naïvement leur voix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confient leur voix par dépit. Je pense pas qu'il y ait... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voter aux prochaines élections parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un devoir de voter. Et c'est quand même, moi, un sentiment que j'ai. Je me suis posé la question, hein, je connais tous ces débats, je traîne quand même aussi un peu dans des milieux qui prônent ce genre de discussion, hein, je me suis posé la question, mais j'ai quand même une espèce de devoir de voter, j'ai toujours voté, parfois blanc, je me suis quand même déplacée.
Sauf que c'est pas reconnu, hein, le vote
c'est pas
blanc.
Reconnu, toujours mais pas. Je sais pas, je me suis déplacée, pourtant on n'a jamais fait vraiment mon éducation civique. Hein,
est-ce, que c'est pas gênant parents, est-ce que c'est pas gênant quand même de voter pour des gens qui sont présélectionnés, finalement il n'y a pas réellement de
mais
choix
si,
pour l'instant.
Si, si, si,
donc
si,
c'est un peu une démocratie.
Jamais,
à la petite semaine, confisquée
dès le départ. J'ai
jamais
voté en la joie au cœur en me disant « Ouais, je vote pour le candidat idéal, etc. » Mais évidemment, ça, je suis complètement d'accord avec ça.
Donc, est-ce que ton vote sert à quelque chose alors ? Oui, non ?
En partie, je pense qu'il faut... Oui. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait voter. Et encore plus, depuis l'année dernière, avec les printemps arabes, là, j'ai eu vraiment la conviction, quand j'ai entendu des gens prenaient le discours de ne pas voter, que quelque part, il y avait un discours d'enfant gâté et après avoir rencontré ou discuté avec des gens de ces pays arabes-là, quand
et
toi,
t'as l'impression
en France,
que ça va mieux chez eux.
Non, je dis pas du tout que ça va mieux. Mais bon, quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont même pas le droit de vote et que nous, on l'a et qu'on se dit « Ouais, ça sert à rien de voter, faut pas aller voter, nanani, nanana. » Bien sûr qu'il y a des raisons de se dire ça. Hein. Je conteste pas les raisons. Mais...
Manu, pour conclure, parce qu'il va falloir conclure.
Oh mais non, conclure, oui, voter, oui, par dépit, oui, mais je ne sais pas si donner comme ça à des gens un pouvoir qui
exorbitant,
ne représente pas ce que toi tu aurais envie. C'est...
Et puis franchement, au 21e siècle, est-ce qu'on peut confier réellement, alors que je pense que les citoyens deviennent adultes, en tout cas, il faut essayer de leur faire confiance dans ce sens-là, sinon ça n'arrivera jamais. On ne peut pas être tenu toujours par la main par une personne qui régit 60 millions, 70 millions, 230 millions de personnes qui décident pour tout ce monde-là, je crois que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est terminé. Donc, il faut trouver autre chose. Il ne peut pas y avoir une personne qui décide pour les autres.
Je veux juste dire que ça va être encore pire avec la RGPP, c'est-à-dire la réforme des institutions qui va faire qu'on va avoir encore moins de représentants pour nous représenter. Hein. Donc ça va plutôt dans le sens inverse de ce que tu penses qu'il faudrait que ça aille.
Alors je voudrais juste dire, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de cette émission, le débat n'est pas clos, bien sûr, les élections, les élections ne sont pas encore tout à fait arrivées. Nous avons d'ailleurs un autre magazine qui nous attend très bientôt avant les élections. Tintin. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir sur certains aspects, en tout cas, de ce sujet, du suffrage.
Et puis on juste... en aura un après, en plus.
En plus. www.nonalaguerre.com, c'est là que j'ai trouvé donc ce fameux texte avec beaucoup d'autres très intéressants sur ce sujet et sur beaucoup d'autres, notamment sur l'actualité en cours. Nonalaguerre.com, www, je vous conseille vraiment ce site pour avoir une réflexion très large. Voter a-t-il encore un sens ? Ça, c'est chez Milan. C'est un livre qui vient de paraître, un petit opuscule de Christophe Lamour. Il est prof de philo. C'est un véritable petit pamphlet très rapide à lire pour devenir, je pense, un lecteur, un électeur avisé, voire un citoyen heureux. Donc, voter a-t-il encore un sens ? Et Élections contre démocratie, que je vous recommande tout particulièrement, puisqu'il émane d'un groupuscule anarchiste ruthénois qui s'appelle Rhodes la Rouge. Il est signé Thomas Fexa, Louis Janover, Monique Janover, que nous. Retiendront que nous aurons ici en studio très bientôt. Élections contre démocratie.
Coupez-le. Allez, bye bye.
Merci.
Allez, salut et fraternité.
Salut.